Comment avoir une vie ordinaire quand on est le fils du trafiquant de drogue le plus connu et le plus terrifiant du XXe siècle? Comment se reconstruire? C'est à ces questions et d'autres que répond une série documentaire diffusée sur RMC Story à partir de demain soir. Ça s'appelle Escobar, l'héritage maudit. Escobar, c'est le père, c'est Pablo Escobar, chef du cartel de Medellín dans les années 80 et 90. Escobar, le fils, c'est Juan Pablo, traqué, menacé pendant des mois après la mort de son père. Et c'est lui l'héritier et c'est lui qui a accepté de raconter sa vie dans cette série qui propose un regard inédit sur la famille Escobar avec de nombreux témoignages, de très nombreuses archives. Bonjour Thomas Misraki.
Bonjour Philippe Bondel.
C'est vous qui avez co-réalisé cette série documentaire avec David Périssère. Vous êtes également l'un des visages de BFM TV, l'un des derniers à être présent depuis la création de la chaîne en 2005. Comment est née l'idée de cette série? Comment c'est venu?
Tout simplement, et grâce à BFM TV, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai interviewé Juan Pablo Escobar. Il était à Paris pour faire la promotion de son livre sur son père. Je me suis rendu à l'interview avec un casque de moto. On a commencé à parler de moto. Je ne savais pas qu'il était passionné par les motos. Je restaurais à l'époque une vieille BMW des années 70. Lui avait récupéré une Guzzi de son père que son père avait lui récupéré qui venait d'un général de Mussolini. On a échangé sur ses motos. On a échangé après par texto sur les motos de manière générale. Et au bout d'un moment, il m'a envoyé un texto. Il m'a dit, tu sais ce qu'on devrait faire? Moi, j'habite en Argentine. Toi, tu habites à Paris. On devrait se retrouver en Colombie pour faire un road trip à moto. Et là, je me suis dit, j'ai le fils de Pablo Escobar qui est en train de me proposer de faire un road trip à moto avec lui en Colombie, il doit y avoir quelque chose à faire.
Incroyable. Et il a une vie totalement hors norme, puisque j'ai eu le début du documentaire. Il a, par exemple, à l'âge de 11 ans, je crois qu'il avait déjà 27 motos différentes. Il ne s'habillait jamais la même journée avec les mêmes vêtements pour dire l'argent que possédait son père. Il n'avait jamais le même jour la même montre. Et juste pour situer ce qu'était la fortune d'Escobar et la surface financière, j'ai retenu ce chiffre. Pablo Escobar, avec son trafic de drogue, gagnait chaque week-end 70 millions de dollars, rien qu'avec le trafic sur la ville de Miami. Qu'est-ce que vous racontez d'autre? Juste ça, qu'est-ce que vous racontez d'autre dans les 4 épisodes?
On raconte en fait la vie de son fils. Moi, ce qui m'a intéressé avec Juan Pablo Escobar, c'est ce qu'il a dû subir. En fait, ce gars-là, c'est un survivant. Il est né dans un monde de, on peut penser de rêve, en fait c'était un enfer, mais c'était un monde de rêve jusqu'à l'âge de 15 ans où là il perd son père, il est multimilliardaire, il a tout ce qu'il veut.
Un monde de rêve. Il raconte quand même, il y a quelqu'un qui témoigne et qui dit, il vit au milieu de la drogue, des prostituées.
Oui, mais,
des mitrailleuses.
Mais il est enfant, lui ne voit pas ça quand il est enfant. Il voit la violence, il la perçoit, mais lui, il est dans des hélicoptères, dans des voitures de luxe, dans des avions de luxe. Il a tout ce qu'il veut. C'est pour un gamin, c'est un monde de rêve. Il a un père qui est le meilleur père du monde, qui est un papa aimant, qui l'éduque, qui le met en garde contre la drogue, qui le gronde quand il est pas bon à l'école. Et en même temps, ce père, c'est un monstre. C'est un gars qui est responsable de la mort de 45 000 personnes. C'est le baron de la cocaïne dans le monde. Et il perçoit ce problème, le gamin. À 7 ans, Pablo Escobar emmène son fils devant une table. Il y a toutes les drogues devant cette table. Et il lui dit, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça ça fait ça. Si un jour tu veux prendre de la cocaïne, tu viens me voir, parce que je veux pas que tu récupères ce qu'il y a dans la rue. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Et il a 7 ans. C'est le rapport qu'il a avec son père. Et moi, ce rapport-là, c'est ce que je raconte dans cette série documentaire de 4 épisodes. C'est comment on survit quand on est le fils de Pablo Escobar.
Il y a de nombreux témoignages, souvent inédits. Vous avez rencontré une trentaine de personnes pour faire ce doc, notamment la femme de Juan Pablo Escobar, sa mère, sa tante, des anciens gardes du corps, des anciens policiers, des journalistes. Mais celui qu'on voit et qu'on entend le plus, c'est évidemment Juan Pablo Escobar, qui, dès les premières minutes, dit ceci.
Mon père était le chef de la plus grande organisation criminelle de l'histoire. Je m'appelle Juan Pablo, je suis le fils de Pablo Escobar. Cette phrase, je ne la dis jamais à personne. Il faut que vous le sachiez.
Il dit jamais d'un seul trait qu'il s'appelle Juan Pablo Escobar. Pour quelle raison?
Parce qu'il a changé d'identité à la mort de son père. Il a dû changer d'identité parce que sinon il était tué par le cartel de Cali. Donc il s'appelle aujourd'hui Sébastien Marroquin. Sur ses papiers d'identité, il y a marqué Sébastien Santos Marroquin ou Marroquin Santos. Je ne me rappelle plus de l'ordre. Mais il n'est plus Juan Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar, c'est devenu son nom de business, si j'ose dire. C'est-à-dire le nom avec lequel il signe ses livres, avec lequel il fait ses conférences. C'est le nom, le prénom qui est utilisé, Juan Pablo, par ses cousins à Medellín,
ouais.
Mais les gens qui l'ont rencontré ces dernières années l'appellent Sébastien. Donc c'est très drôle en fait, en fonction de quand vous avez connu Juan Pablo, vous l'appelez Juan Pablo ou Sébastien.
Il a un métier maintenant?
Oui, il est architecte.
Et l'héritage, il n'y a plus d'argent?
Alors, c'est plus compliqué que ça. Une grande partie, je dirais 99% de l'argent de Pablo Escobar a été soit récupéré par l'État colombien, soit par les autres cartels avec qui il était en guerre. Il restait plus grand chose à la mort de Pablo Escobar. Pourquoi ? Parce que Escobar, il a financé une guerre contre les cartels, contre l'État. Il a dépensé beaucoup d'argent pour cette guerre-là. Au moment où il meurt, et on a l'interview de l'avocat qui a fait l'héritage de Pablo Escobar, qui n'avait jamais parlé avant. Il parle dans ce documentaire pour la première fois, et lui nous raconte, au moment où Pablo Escobar meurt, il y avait beaucoup de maisons, de terrains, de propriétés, mais en cash, il ne restait plus rien. 200 millions de dollars, tout au plus.
Oh, c'est rien.
Bah, pour lui, c'est rien.
Non, c'est là où c'est complètement dingue, et voilà. C'est hors norme cette histoire. Et 200 millions, pour eux, c'est rien.
Pour Pablo Escobar, c'était rien en tout cas. Et donc cet argent-là, il a complètement disparu. Après que la famille aujourd'hui ait quelques propriétés, des tableaux, des œuvres d'art et tout, c'est tout à fait possible. Mais Juan Pablo Escobar, lui, il vit très modestement, comme quelqu'un d'une classe moyenne supérieure, à Buenos Aires, dans un petit appartement qui doit faire 80 mètres carrés, dans un quartier résidentiel, certes, mais il vit vraiment comme tout le monde.
Il y a des témoignages inédits, je l'ai mentionné, celui notamment de la femme de Juan Pablo Escobar. Elle s'appelle Angeles, je ne sais pas comment on prononce. On la rencontre à l'adolescence, au début des années 90, au moment où les affaires tournent mal pour la famille Escobar. Elle se retrouve alors embarquée dans la fuite de cette famille. Un jour, notamment, quand Juan Pablo doit organiser le fait que sa famille puisse fuir, Medellin se retrouve dans l'aéroport, bloqué. Ils ratent leur avion, on les fait mariner, on les fait traîner. Et Juan Pablo, qui n'a que 15 ans, trouve alors une solution. Sur place, il loue un hélicoptère et sa femme s'en souvient encore.
Selon moi, cette journée est digne d'un film. On réussit à prendre l'hélicoptère, suivi par un autre juste derrière, rempli de journalistes. Et puis encore un autre. Je pense que c'est l'une des journées les plus longues de ma vie. Une journée durant laquelle j'ai pu voir à quel point Juan Pablo était capable d'affronter autant de problèmes. Il était très jeune à l'époque et il a maîtrisé la situation.
Si vous ne reconnaissez pas la voix, c'est celle de Magali Buteau qui travaille avec nous, parce que je dois préciser que vous passez les documents bruts et qu'ils sont sous-titrés. Évidemment, on ne peut pas sous-titrer à la radio. Et ce que vous montrez dans cette série, c'est que l'héritage maudit va donc bien au-delà de son fils.
Évidemment, c'est un héritage qui a touché alors évidemment la famille, mais aussi un pays entier. On va y revenir. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur Angeles, qui est la femme de Juan Pablo Escobar.
Allez-y.
Elle l'a rencontré, il avait 13 ans. Elle en avait 18 ans. Ils sont tombés amoureux. Lui est tombé amoureux d'elle. Il a vraiment tout fait pour la garder. Et au moment où elle a connu vraiment l'apogée de Pablo Escobar, le début de la chute, au moment où il commence à chuter, cette famille, Pablo Escobar va la voir en lui disant : écoute, voilà, je te donne 24 heures. Soit tu restes, mais si tu restes, c'est pour la vie et probablement pour la mort. Soit tu t'en vas. Et elle a passé la nuit donc à réfléchir à ce qu'elle allait faire. Elle est restée, elle nous le raconte. C'est la première fois qu'elle a accepté de témoigner. On a fait ça en 2 jours, 8 heures d'interview avec elle dans une chambre d'hôtel. Et c'est une personne absolument incroyable aussi dans cette histoire.
Et je le confirme, témoignage très très émouvant. Et c'est pas le seul. Escobar, l'héritage maudit. Vous restez avec nous, Thomas Misraki. Culture Média continue. En compagnie de Thomas Misraki, c'est un visage de BFM TV. Il co-signe une série documentaire, Escobar, l'héritage maudit. Ce sera sur RMC Story, chaîne du même groupe. Pablo Escobar utilise son nom de naissance, il s'en sert à des fins commerciales. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ambivalence ? Parce que quand il fait des affaires, il s'appelle Escobar, et puis quand il vit dans la vraie vie, il a changé de nom.
C'est Juan Pablo Escobar, oui, vous avez raison. Pablo Escobar, lui, il est mort depuis 1993. Oui, voilà, c'est son fils dont on parle. Mais oui, il y a une ambivalence et il l'assume complètement. Parce que pourquoi ? Il a été obligé de changer de nom quand il avait 15 ans, 16 ans. Il est obligé de s'exiler, il part vivre au Mozambique, puis après en Argentine. Et il vit dans l'ombre simplement pour ne pas terminer en prison, pour ne pas être embêté, etc. À un moment, il est... on va utiliser un mot du moment, outé. Il est outé, Juan Pablo Escobar. Et donc, il redevient qui il a été lui-même. Et là, il se dit, ben, en fait, tout autour de la planète, tout le monde utilise Escobar. Il y a des bars qui s'appellent Escobar. Mm-hmm. Il y a des marques de café qui s'appellent Escobar. Il y a des marques de spiritueux qui utilisent. Pourquoi moi, je ne le ferais pas ? Simplement, lui, ce qu'il fait que les autres ne font pas, c'est qu'il explique qui était son père. Il explique ce que la drogue a fait à sa famille. Il explique les ravages qu'a fait son père pour la paix dans son pays. Et donc, il utilise son nom aujourd'hui pour faire le bien, c'est un peu sa vengeance par rapport à son père.
Et il sort un nouveau livre aujourd'hui.
Exactement.
Sorti en France seulement ou sorti mondial ?
Non, en France seulement. C'était un livre incroyable. Il est allé voir les ennemis de son père.
Et ce qu'on a vu qui frappe vraiment dans votre doc, c'est qu'il est adoré dans les rues de Medellín. Il y a des portraits sur les murs d'Escobar, comme à Naples, il y a encore des portraits de Maradona.
Philippe Bondel, j'ai vu des enfants de 10 ans s'agenouiller devant Juan Pablo Escobar dans le quartier Escobar à Medellín. C'est le quartier qui a fait construire Pablo Escobar dans les années 80 pour les pauvres. Des enfants s'agenouiller devant lui en lui tenant la main pour le remercier de ce que son père avait fait pour eux. Voilà, donc il est extrêmement populaire chez les pauvres. Attention, chez les pauvres, parce que ailleurs en Colombie, on n'en peut plus des Escobar. La mairie de Medellín, par exemple, fait tout pour se débarrasser de cet héritage. Il y a encore quelques mois, ils ont détruit l'ancienne résidence principale, l'immeuble Monaco d'Escobar à Medellín. Donc, il y a une volonté politique d'effacer Escobar de l'histoire de Colombie. Mais à Medellín, il faut bien le dire, il y a une véritable ferveur toujours autour des Escobar.
Comment vous avez travaillé là-bas en Colombie? Vous étiez bien accueilli. Vous devez donner une partie de la réponse. Vous deviez être bien accueilli par les pauvres et moins bien par les autorités. Combien de temps de tournage?
C'est à peu près ça. 11 semaines de tournage, 1 an de montage, 2 ans de préparation globalement. Pour interviewer des Colombiens qui travaillent soit toujours avec ou en compagnie des narcos, soit de la famille Escobar, soit des gens qui ont connu cette période-là, il faut de la confiance. Donc les gens, on les a tous contactés avant, on leur a parlé régulièrement. Et moi, je suis allé plusieurs fois là-bas pour les rencontrer, pour serrer la main, pour aller boire des cafés, pour les inviter au resto, pour discuter avec eux, pour leur expliquer l'idée de notre projet. Nous, c'était important qu'on parle à tout le monde, les amis et les ennemis.
Il y a beaucoup d'archives. Comment avez-vous travaillé? Et même, je vais dire, les questions telles qu'elles se posent, combien ça coûte de diffuser autant d'archives?
Je vais vous dire ce qui s'est passé quand on a négocié avec Juan Pablo Escobar, quand il a accepté de faire ce doc, et quand le doc s'est transformé en série, parce qu'au départ c'était un film qu'on voulait faire, on en a fait 4 finalement. Je lui dis, j'ai besoin d'avoir accès à tout. Et il me dit, banco. Quand on est arrivé à Medellín, il m'a amené dans un local caché, dans un immeuble. Et dans ce local, qui était sous un parking, il y a une petite cave. Et dans cette cave, il y avait tous ces albums de famille. 47 albums de la famille.
Ça, ce sont des photos. Mais il y a aussi des vidéos.
Et les vidéos.
La
on
vidéo, par exemple, comment vous arrivez à
digitaliser?
Ouais. Parce qu'il y a des vidéos absolument incroyables que moi, je n'avais jamais vues. Par exemple, quand ils sont dans l'aéroport et quand ils vont prendre l'hélicoptère, c'est une reconstitution ou c'est des vidéos authentiques de
tout
famille?
Tout est authentique. Tout est authentique. Vous savez, c'est complètement bête en fait. Tout le monde s'est toujours intéressé à Pablo Escobar. Donc les vidéos que vous avez eues sur Pablo Escobar, ce sont toujours les mêmes. Sauf que nous, on s'est intéressé au fils. On a voulu raconter la vie du fils. Et toutes ces vidéos, elles étaient là, elles étaient disponibles, très vieilles pour la plupart, mais personne ne les a jamais utilisées. Donc on voit des choses qui sont ahurissantes.
Le destin de Juan Pablo Escobar, le fils, aurait pu être très différent. Et ça, vous le racontez aussi dans la série. Ça s'est joué en quelques minutes. C'était le 2 décembre 93. Le jour de la mort de Pablo Escobar, tué par la police. Juan Pablo apprend le décès de son père, il est triste, il est en colère. Il dit alors à une journaliste qu'il va le venger et qu'il va tuer tous ceux qui ont tué son père. Il se dit alors que ce qu'il vient de dire est une grosse erreur. 10 minutes plus tard seulement, il rappelle un autre journaliste pour dire qu'il ne fera rien, qu'il ne se vengera pas. Et voici comment il vous l'explique aujourd'hui.
Il était assez facile de savoir si j'allais continuer sur les traces de Pablo Escobar. Qu'est-ce que j'avais à y gagner? Plus de terreur, plus d'enlèvements, plus d'assassinats, encore plus de chaos. En échange de quoi? Avec quel résultat? Est-ce que je vais aller mieux? Est-ce que je vais récupérer mon père, avoir la paix et la sérénité dans ma famille? Et les réponses à toutes ces questions étaient évidentes. Non, 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 non et non. Tout se serait mal passé si j'avais suivi la voie de mon père.
Sauf que, en dépit de ce revirement, et à cause de son premier appel, l'appel à la vengeance, il va vivre un enfer pendant plusieurs années.
Oui, 25 ans d'exil. Voilà ce que ces quelques secondes ont changé dans sa vie. C'était, de ces mots, c'était la plus grosse connerie de sa vie. Mais c'est un gamin qui a 15-16 ans, qui vient d'apprendre la mort de son père par téléphone, une journaliste qui lui apprend que son père est mort, alors qu'il est devant la télévision et qu'il voit les images en direct. Donc c'est une réaction normale pour n'importe quel gamin de cet âge-là, sauf que lui, c'est le fils de Pablo Escobar, et que son père est la personne qui, à ce moment-là, dans son pays, a le plus d'ennemis possible. Donc, il s'auto-condamne et il va devoir aller négocier avec le cartel de Cali en personne pour sa vie. Et on a rencontré à cette occasion le fils du chef du cartel de Cali, qui s'appelle Miguel Rodriguez, et les deux se sont rencontrés devant nos caméras pour la première fois. C'était hallucinant.
Escobar, c'est un sujet qui a été traité des dizaines de fois au cinéma, à la télévision, on peut citer la série Narcos sur Netflix. C'est le générique de Narcos qui démarre.
Ça m'a bien aidé, Narcos.
C'est vrai, pourquoi?
Ouais, parce qu'il a détesté Narcos. Parce qu'il trouvait que c'était quelque chose qui glorifiait son père. Et quand on en a parlé au début, il me dit je voudrais les défoncer. J'en ai marre que mon père soit glorifié. Je reçois des centaines de mails tous les jours de gamins qui me disent ton père était génial, je veux faire comme lui. Et lui, il se bat contre ça, en fait.
Et vous-même, pourquoi aviez-vous choisi de traiter ce sujet, justement, sujet battu et rebattu?
Parce qu'on avait un angle qui n'avait jamais été développé, le fils. Comment on survit au meilleur père du monde, qui est aussi le pire des salauds, voilà. Et ça, c'est vrai pour Juan Pablo Escobar, c'est vrai pour chacun d'entre nous, comment on se construit par rapport au père. Donc, c'est quelque chose aussi qui parle à tout le monde.
Escobar, l'héritage maudit, s'est diffusé sur RMC Story. Les deux premiers épisodes, ce sera demain soir à 20h05, les deux suivants, les deux derniers, ce sera quand?
Le 15, c'est-à-dire vendredi prochain.
Vous êtes un pur produit de BFM TV, Thomas Misraki, vous y travaillez depuis la création de la chaîne, donc en novembre 2005, 15 ans déjà. Cette année, pas d'émission pour vous, alors que les dernières années, vous en avez animé beaucoup, 7 jours BFM, le live BFM, entre autres. C'était un choix de souffler ou c'était un désir de la direction?
Pas du tout, c'est pas un choix de souffler, c'est un désir de la direction. Ça se passe comme ça dans les chaînes info, ça se réorganise chaque année, on change un peu les cases, les gens, etc. pour redonner du souffle. Même si on est leader, il faut qu'on reste vigilant parce qu'il y a de très bons concurrents en face. Donc c'était un choix de la direction. On en a parlé évidemment avant, ils m'ont proposé des choses, on est en train de travailler sur des projets, mais voilà, c'était pas mon choix. Non.
Et là maintenant vous faites quoi? Vous êtes une sorte de super reporter.
Voilà, je suis un grand reporter, donc j'ai eu la chance de couvrir les élections aux États-Unis. Je suis parti 3 semaines, j'ai eu la chance de couvrir le décès de Maradona, je suis parti 5 jours en Argentine pour ça. Là on travaille sur 2 gros événements qui viennent dans les 15 prochains jours, les prochains mois et demi plutôt. Voilà, et donc je réapprends ce métier de grand reporter qui est génial parce qu'on est au cœur de là où ça se passe.
Merci beaucoup Thomas Misraki d'avoir été avec nous. Escobar, l'héritage maudit, c'est produit par Victor Robert et Cyril Salvador et c'est 10.7 la société. 2 premiers épisodes demain soir sur MC Story et puis les 2 suivants la semaine suivante. Merci beaucoup, bonne journée, merci d'avoir été avec nous. C'est à 21h évidemment sur MC Story, mais il y a les replays évidemment.